Le journal Marc Fauvel, bonjour.
Bonjour à tous. À la une ce matin, en France, on n'a pas de pétrole, mais des musées à profusion, ça tombe bien. Aux Émirats Arabes Unis, c'est l'inverse. Emmanuel Macron inaugure aujourd'hui le Louvre d'Abu Dhabi. On pousse les portes de ce musée du désert dans quelques instants. Une star de la pop, un prince, un réalisateur césarisé, c'est la moisson du jour des Paradise Papers. Shakira, le prince Charles et Jean-Jacques Hano rejoignent la longue liste désormais des amoureux des paradis fiscaux. 5 ou 10 ans de plus pour tenir la promesse, Nicolas Hulot renvoie à plus tard la baisse de la part du nucléaire dans notre mix énergétique. Colère des écologistes, on ouvre le dossier à 8h20, Nicolas, avec votre invité.
Il s'agit de Pascal Canfin, c'est un proche de Nicolas Hulot. Il est le directeur du WWF France. Vous pourrez dialoguer avec lui à 8h40, vos questions au 01 45 24 7000.
Dans ce journal également, les premiers pas de Donald Trump en Chine. Il s'y est posé il y a quelques instants. De moins en moins de braquages en France. Des cours en doudoune et en bonnet en Seine-Saint-Denis. Plus de chauffage dans certaines écoles. Les nouvelles règles du contrôle technique, ça va se durcir l'an prochain. Et puis, combien vaut le foot féminin? Les chaînes de télé casseront-elles leur tirelire pour s'offrir les droits de diffusion aujourd'hui? Quand l'argent du pétrole coule sur les œuvres d'art, Rodin, De Vinci, Van Gogh débarquent donc au pays de l'or noir avec l'inauguration aujourd'hui du Louvre d'Abu Dhabi. C'est Emmanuel Macron qui coupera le ruban aux côtés du prince héritier des Émirats Arabes Unis, symbole d'un partenariat entre culture, politique et diplomatie. Évidemment, les Émirats ont vu les choses en très grand. Le bâtiment confié à l'architecte Jean Nouvel est une immense coupole blanche aux portes du désert et en dessous, 600 œuvres prêtées par les musées français. Visite guidée en compagnie d'Isabelle Pasquier.
Sur l'île de Saadiyat, ce Louvre des Sables est comme un mirage. Une gigantesque coupole de 180 mètres de diamètre semble flotter entre mer et ciel, alors qu'elle a le même poids que la tour Eiffel. Sublime, cette coupole en dentelle d'acier abrite une sorte de médina flottante qu'elle inonde d'une pluie de lumière. Et c'est Jean Nouvel qui signe ce chef-d'œuvre.
Quand on est ici et qu'on a comme matériaux la mer, le sable et le ciel, on se dit c'est à partir de ces éléments-là métaphysiques qu'on peut rechercher un caractère sacré. Le premier signe qui évoque le caractère spirituel dans l'architecture arabe, c'est la coupole. Et je me suis dit qu'on va créer une coupole tout à fait particulière qui donne cette évocation métaphysique et spirituelle.
À l'intérieur, autre audace. Le parcours vise le dialogue entre les civilisations avec 300 œuvres prêtées par le Louvre et les musées français et 300 œuvres de la nouvelle collection émirienne. La belle ferronnière de Léonard de Vinci, une femme de Giacometti à côté d'une sculpture guinéenne. Les nus se font rares et discrets, mais aucun commentaire à ce sujet. Ici, on tient compte des contraintes culturelles. Autre sujet sensible, les religions. Une salle présente les livres sacrés de 4 religions. Jean-François Charnier, le directeur scientifique.
On met en dialogue à la fois une Torah yéménite, une Bible chrétienne, les pages de Coran, fin du 7e siècle, et aussi des sutras indiens, pour révéler à la fois leur beauté et en même temps dans une lumière relativement spirituelle.
Car ce Louvre à Abu Dhabi se veut comme un symbole du dialogue Orient-Occident, un symbole diplomatique de tolérance pour cet émirat qui veut occuper une place au premier rang dans cette région du monde cernée par les conflits. Abu Dhabi, Isabelle Pasquier, France Inter.
Et pour l'utilisation de sa marque pendant 30 ans, le Louvre touchera 1 milliard d'euros qui serviront notamment à moderniser le musée parisien.
Il est 8h04, quel point commun entre le prince Charles, la chanteuse Shakira et le réalisateur Jean-Jacques Hano?
Ils sont les heureux nominés du jour pour leur rôle dans le feuilleton des Paradise Papers. Honneur aux têtes couronnées, le prince Charles tout d'abord, épinglé pour des investissements aux Bermudes. Côté People, la reine du déhanché Shakira aurait caché 30 millions d'euros sur l'île de Malte. Et en France, c'est le réalisateur Jean-Jacques Hano, l'homme aux 3 Césars qui est rattrapé par la patrouille. Comme France Inter vous le révélait ce matin, il a caché de l'argent pendant 20 ans dans des paradis fiscaux, des îles Caïmans jusqu'à Hong Kong, où il a tout rapatrié l'an dernier, ce qu'il ne nie pas d'ailleurs. Contacté par la cellule investigation de Radio France, il affirme avoir été trompé par des conseillers. Il a d'ailleurs aussitôt contacté les services du fisc pour régulariser sa situation. Écoutez son avocat, maître Éric Deloy.
Ce que je peux vous dire, c'est que monsieur Hano, il est assez bon cinéaste. Je pense que c'est pas un excellent fiscaliste, qu'il a pas une maîtrise parfaite des tenants et aboutissants de tous ces sujets-là. Et je pense qu'il a été donc conseillé à la fois par des avocats anglo-saxons et à la fois par la banque. Et au cours des dernières années, il y a eu une pression suite aux réformes qui ont eu lieu dans tous les pays qu'on appelait le G20 et qui est dans lequel on a voulu faire davantage de transparence sur les comptes bancaires des gens qui étaient résidents de ces pays. Et les banquiers ont souhaité essayer de d'éloigner d'eux une éventuelle responsabilité quant à un manquement aux obligations fiscales.
Maître de loi au micro de Jacques Monin, le directeur de la cellule investigation de Radio France, qui a travaillé au sein du consortium international de presse qui révèle aujourd'hui ses Paradise Papers. Et maintenant, parole à la défense, en quelque sorte, dans ce dossier tentaculaire. Direction l'île de Man, petit caillou perdu en mer d'Irlande, dont le nom revient dans plusieurs dossiers ces derniers jours et qui aujourd'hui se défend d'être une planque à milliardaires. Au passage, ses autorités se permettent de faire la leçon à Emmanuel Macron, reportage sur place, Jérôme Jadot.
Nous respectons les règles, voilà ce que martèle Alfred Cannan, ancien banquier devenu ministre des Finances de l'île de Man. Aucune raison à ses yeux que son pays figure sur une quelconque liste noire des mauvais élèves fiscaux.
Nous ne sommes pas un paradis fiscal. On a, c'est vrai, un taux d'imposition sur les sociétés de 0%, mais on est totalement transparent. On vit dans un environnement global de libre-échange. Regardez le régime des non-domiciliés à Londres. Regardez les changements du président Macron sur l'impôt sur la fortune. Tous les pays cherchent à attirer la richesse et les investissements.
Des arguments partagés par la plupart des habitants de l'île, pas par Phil Kane, ex-comptable, il anime un petit groupe de partisans de l'impôt. Les taxes réduites ont apporté de la richesse, mais ce n'est plus à ses yeux ni moral ni viable.
Là, l'île risque d'être en déficit, donc on doit faire des coupes dans le budget de la santé ou cette semaine dans le programme de livraison de repas à domicile pour les personnes âgées. Et une des raisons à ça, c'est qu'ici on permet aux riches de ne pas payer d'impôts. On ne peut pas continuer comme ça.
Mais Phil Kane en est sûr, le changement ne viendra pas de l'intérieur. Il voit d'un très bon œil les pressions de Bruxelles pour que son île devienne un paradis perdu.
Reportage Jérôme Jadot sur l'île de Man.
Inter 8h07, simple report ou renoncement? Nicolas Hulot appuie sur le frein.
Sur l'une des mesures emblématiques de la loi sur la transition énergétique votée sous le quinquennat précédent, elle prévoyait de réduire à 50% la part du nucléaire dans notre mix énergétique d'ici 2025. Objectif irréaliste, dit aujourd'hui le ministre, qui veut le repousser de 5 à 10 ans au nom des objectifs climatiques, car il aurait fallu, dit-il pour cela, conserver des centrales au charbon les plus polluantes. Un recul, un de plus, pour l'ancienne ministre de l'écologie Delphine Bateau, qui lui demande tout de même de tenir bon.
Si on met les sujets bout à bout, entre l'autorisation d'un nouvel insecticide tueur d'abeilles, les hésitations qu'il y a pu avoir sur le glyphosate, aujourd'hui la question du nucléaire, en fait c'est le président de la République qui est interpellé. Et ma question c'est, est-ce qu'il y a un sujet qui échappe à l'ambition de réforme, qui échappe à la volonté de changement, qui est celui de l'écologie? Donc je dis à Nicolas Hulot, bon courage, tiens bon, mais bagarre-toi, on est là, t'es pas tout seul, parce que je vois bien qu'on est en train d'organiser aujourd'hui, comme ça a pu être fait sous de précédents gouvernements, une sorte de cornérisation du ministre de l'écologie, et moi je l'accepte pas.
Delphine Bateau avec Julien Langlais, là aussi c'est une forme de pollution. Fini les paquebots géants au pied de la place Saint-Marc. Venise lance la chasse aux navires de croisière qui défigurent le site à partir de 2019. Ils n'auront plus le droit de traverser la ville et devront accoster de l'autre côté de la lagune dans le port industriel.
Les braquages de banques ou de bijouteries seraient-ils en train de passer de mode?
En tout cas, le nombre de vols à main armée était en forte baisse d'après les derniers chiffres de l'Observatoire National de la Délinquance. On en a compté 2900 l'an dernier, mais c'est deux fois moins qu'en 2009. Emmanuel Leclerc.
Ce sont les braquages de banques qui ont d'abord fait chuter les statistiques. Frédéric Douady est le chef de l'Office central de lutte contre la criminalité organisée.
Ce qui était le cœur du métier, entre guillemets, pour les braqueurs dans les années 70, 80, jusque 2000, il y en a plus.
Et pour les équipes de braquage de fourgons blindés, c'est aujourd'hui moins d'une dizaine en France.
On a encore vu, mettons, il y a un peu moins d'un mois, à Saint-Chamond, du côté de Saint-Etienne, une attaque à main armée avec explosifs d'un fourgon blindé. Donc, ce type d'agression existe encore, mais il y en a beaucoup moins.
Ce qui a surpris Christophe Soulez, le patron de l'ONDRP, l'Observatoire de la délinquance et des réponses pénales, c'est que cette très forte baisse des vols à main armée a concerné l'ensemble des régions, à l'exception des Antilles.
On est à peu près un nombre divisé par deux hein, depuis 4-5 ans, là aussi, tout établissement confondu.
On sait que les explications sont multiples, entre une meilleure sécurisation des banques, des démantèlements en série ces dernières années de gangs français ou en provenance de l'Est de l'Europe par les policiers et les les gendarmes. Et puis, les nouveaux voleurs sont surtout des cyber-braqueurs ou se sont reconvertis dans les stupes beaucoup moins risquées. Restent des formes ultra-violentes de vol à main armée où les attaques ont peu diminué. Dans les supérettes ou à domicile, les homejacking, on l'a vu récemment à Lille, avec l'arrestation d'une bande de braqueurs, âge moyen 18 ans, et des agressions en série pour se faire remettre les clés de voitures de couple dans des pavillons.
Comment étudier quand on grelotte ? Question posée depuis lundi à Bagnolet, en Seine-Saint-Denis, où plusieurs écoles n'ont quasiment plus de chauffage. Le système est vétuste, il est tombé en panne alors que les températures, elles, descendaient en flèche. L'école avec les bonnets et les dents qui claquent, reportage Solène Lehen.
9-10 degrés en classe depuis lundi, ambiance esquimaux. Miguet garde la doudoune.
Dans la classe, en fait, vu qu'il fait trop froid, on travaille pas, on a fait des calculs mentaux, c'est doux.
Et la maîtresse, Saïda Jbia Nicolas, fait comme elle peut.
On peut pas travailler, on peut pas leur demander d'écrire, ils ont trop froid pour pouvoir tenir les stylos, pour se concentrer. Ils gardent leur blouson, et certains ont préféré m'ont demandé de garder leurs gants parce qu'ils avaient froid aux doigts. Donc on a fait plusieurs fois des exercices d'échauffement. Et on a préféré à un moment sortir de la classe parce qu'il faisait meilleur à l'extérieur.
Même situation à l'école maternelle attenante.
Il faisait 10 degrés dans les dortoirs hier par exemple, en petite section. Les élèves ont dû rester habillés, ils avaient vraiment froid.
Les services techniques ont décelé une fuite dans le système de chauffage. Les enseignants comme les parents ne sont pas surpris.
On a des bouts de murs qui s'effondrent. Il y a effectivement un gros problème de vétusté qu'on dénonce.
Notre école, elle est vieille. Moi j'étais à cette école-là déjà, donc elle n'a pas changé. C'est vieux.
La mairie de Bagnolet reconnaît que plusieurs écoles ont des problèmes de chauffage. Également l'église. Le prêtre s'est plaint la semaine dernière. Dans l'urgence, la municipalité fournit des chauffages d'appoint, mais rejette la faute sur le réseau de canalisation défectueux qui ne dépend pas d'elle.
C'est une étude qui reste à confirmer, mais elle est porteuse d'espoir dans la lutte contre le cancer du col de l'utérus. Le port d'un stérilet permettrait de réduire d'un tiers le risque de développer ce cancer. Le troisième le plus fréquent chez les femmes. Ce contraceptif pourrait stimuler une réponse immunitaire qui aiderait à combattre des infections responsables de la maladie.
8h12, le temps de la force est venu, ne nous sous-estimez pas.
Nouvelle mise en garde signée Donald Trump cette nuit à l'adresse de la Corée du Nord, propos tenus chez le voisin sud-coréen aux dernières heures de sa visite sur place. Il a qualifié le régime de Pyongyang de dictature dirigée comme une secte. Le président américain s'est ensuite envolé vers la Chine où il vient de poser le pied. Et là, c'est plutôt une séance de câlinothérapie qui l'attend. Le temps où Donald Trump attaquait Pékin à longueur de journée semble bien révolu, Dominique André.
La Chine sort le grand jeu pour donner de la face à Donald Trump. Les Chinois parlent d'une visite premium pour ce président américain milliardaire dont la réussite dans les affaires les impressionne. Cette visite d'État étoile commencera par la cité interdite, fermée toute la journée de mercredi pour un important événement, peut-on lire sur le site internet de l'ancienne résidence des empereurs de Chine. Donald Trump et Xi Jinping y prendront le thé avec leur famille dans un lieu qui a été choisi pour en savoir plus sur l'histoire de la Chine, explique l'ambassadeur des États-Unis à Pékin. Demain, Donald Trump et Xi Jinping se retrouveront au Palais du Peuple pour des entretiens dominés par la crise nord-coréenne et le déficit commercial des États-Unis en Chine qui s'élève à 350 milliards de dollars, un sujet brûlant. La presse américaine parle déjà d'une moisson de contrats, plusieurs milliards de dollars pour les entreprises qui accompagnent Trump. Tout est donc prévu pour flatter l'imprévisible et égocentrique 45e président des États-Unis et lui montrer aussi que la Chine est devenue l'autre grande puissance avec laquelle il devra partager le leadership mondial. Pékin, Dominique André, France Inter.
En Catalogne, le camp indépendantiste se déchire à l'approche des élections du 21 décembre. Les deux principaux partis séparatistes n'ont pas réussi à s'entendre. Ils feront liste à part lors de l'élection.
Et du nouveau sous les capots.
Avis aux conducteurs qui doivent faire passer le contrôle technique. À partir de mai prochain, les règles vont changer avec des sanctions et des tarifs plus lourds. Jules De Kiss.
Ce nouveau contrôle technique instaure un cran de gravité supplémentaire dans les défauts d'un véhicule. La défaillance critique.
Une absence de freinage, des pneus complètement lisses, un feu qui est cassé.
Si Anthony Charrère, responsable d'un centre de contrôle dans le 13e arrondissement de Paris, en détecte une sur une voiture, son propriétaire devra agir très vite. C'est le grand changement par rapport au système actuel et une contre-visite unique sous 2 mois, quel que soit le problème.
Il n'y avait qu'une seule contre-visite, ça veut dire que même si votre véhicule ne freinait pas, vous pouvez quand même rouler 2 mois. Là, si vraiment il y a un problème comme ça, où vous freinez pas, vous allez avoir qu'une journée.
Une journée, pas plus, sans quoi vous pouvez être verbalisé, 135 euros d'amende. Pierre Chasseret, le délégué général de 40 millions d'automobilistes, voit mal comment la mesure pourrait être appliquée.
Je ne pense pas qu'on va aller immobiliser un véhicule parce qu'il n'aura pas réalisé les travaux dans les deux heures qui suivent son contrôle technique. En revanche, je pense qu'il faudra pour l'automobiliste visé mettre en place un rendez-vous avec son garagiste de manière à prouver aux forces de l'ordre, s'il les croise, qu'il a bien pris en considération le problème stipulé à son contrôle technique.
Les sanctions sont donc plus sévères, mais pas le contrôle en lui-même. Un véhicule certifié aujourd'hui le sera sans encombre demain. Les tests seront seulement un peu plus pointus, plus longs et donc plus chers, de 10 à 20% en moyenne d'après les prévisions des centres de contrôle.
Un deuxième entraîneur qui saute en Ligue 1, Christian Gourcuff, quitte le banc du Stade Rennais. On ne connaît pas encore le nom de son successeur. Du côté du foot féminin, maintenant c'est l'heure de vérité. Combien les chaînes de télé vont-elles mettre sur la table pour s'offrir les droits de retransmission des prochaines saisons? Alors on n'atteindra pas les sommes de 750 millions des footballeurs masculins, mais le foot féminin devrait tout de même rapporter un beau magot à la Fédération Guillaume Batin.
En juillet dernier, à l'Euro féminin, le quart de finale France-Angleterre a été regardé par 3 200 000 téléspectateurs en prime time sur France 2, 1 million de plus qu'un classico MPSG sur Canal+. Et depuis, les candidats se bousculent à la porte de Noël Le Graët, le président de la Fédération française de football.
J'ai reçu toutes les chaînes plusieurs fois. Il y a un intérêt fort aujourd'hui, alors qu'il y a 5 ans, c'était pas extrêmement positif.
Mais selon Christophe Lepetit, économiste au Centre de droit et d'économie du sport de Limoges, le football féminin doit d'abord privilégier la visibilité.
Je ne suis pas certain que ce championnat pour les clients de Canal+, de beIN Sport ou de SFR Sport soit un championnat qui génère un grand nombre d'abonnements. Donc il faut surtout espérer qu'il y ait une couverture médiatique et un traitement éditorial beaucoup plus important que la D1 féminine pour justement montrer que la D1 féminine, c'est un championnat attrayant, intéressant.
Et TF1 l'a bien compris, la chaîne a investi près de 10 millions d'euros pour les droits de la Coupe du Monde 2019 en France. Quant à la Division 1, vendue 200 000 euros à France Télévisions, elle pourrait atteindre cette fois le million et faire du championnat français le plus cher au monde, à égalité avec son modèle, le championnat allemand.
Voilà, moralité en France, on n'a pas de pétrole, mais on a des œuvres d'art et des footballeuses en or.
Merci Marc Fauvel.